commencer à chauffer. Ça devient urgent qu'on s'en sorte.
Mais quand est-ce que ça va péter?
Eh ben oui, on se le demande, quand est-ce que ça va péter? Sur Radio Libertaire 89.4, nous sommes en direct des rencontres internationales de Saint-Imier. Serge?
Donc après avoir parlé de la situation en Grèce, et je pense que c'était très intéressant, d'ailleurs on abordera certainement régulièrement le sujet, on accueille des compagnes et des compagnons mexicains, et avec Ramon qui va traduire, qui en plus était déjà allé au Mexique, donc connaît la situation là-bas. Donc, autour de la table, à ma gauche, donc, il y a Monique, qui est à la technique. Et Monica, donc, qui vient du Mexique et qui se présentera plus longuement. Après, c'est Marco. Et après, Eric. Et donc, Serge au micro. Voilà, peut-être avant de rentrer dans l'analyse de la situation au Mexique et aussi de ce que vous essayez de faire pour lutter contre ce qui se passe, parce que là-bas, la situation depuis longtemps d'ailleurs est extrêmement violente, extrêmement difficile, que ce soit au niveau social, enfin ça vous aurez le temps d'en parler après, bien plus longuement que moi. Donc déjà que vous présentiez rapidement, vous êtes ici à Saint-Imier individuellement ou au nom d'une organisation, et comment vous avez pris la décision de venir à Saint-Imier, voilà.
La pregunta es saber quién sois, si sois individuales o de una organización, y de presentar esta organización, de decir quién sois.
Okay. Bueno, buenas noches. Nosotros somos tres compañeros delegados de la Federación Anarquista de México.
Petit problème technique de micro, c'est pas grave, on va faire basculer le micro. Vas-y, Ramon.
Là ?
Oui, vas-y.
Nous sommes trois camarades de la Fédération mexicaine.
Ajá. Venimos a hacer una observación, más bien venimos como observadores al Congreso de la IFA.
Ils viennent en tant qu'observateurs au congrès de l'IFA, de l'International des Fédérations Anarchistes.
Así es. Nuestro interés en adherirnos a la IFA está presente, pero sí necesitábamos como conocer de manera real.
Notre intérêt pour adhérer à l'IFA était sûr, mais on voulait voir comment se déroulait ce congrès.
Oui, voilà. Bon, comme vous êtes tous les trois dans la même organisation, ça va aller plus vite pour présenter cette organisation. Je me rappelle que l'année dernière, c'était le premier congrès, on peut dire, de la Fédération anarchiste mexicaine. Il y avait une compagne et un compagnon, donc Jessica et Romain, certainement, que vous avez dû voir ici, qui avaient été envoyés par la Fédération anarchiste. Donc il y a des contacts qui sont noués déjà depuis ce moment-là. Peut-être qu'avant de rentrer dans la situation au Mexique et cette situation très violente qui se perpétue et qui s'accentue, vous expliquiez comment il y a une résurgence de groupes anarchistes et dont une partie a souhaité se fédérer très récemment, depuis un an.
La pregunta es de saber cómo es que hay por lo visto una resurgencia del ideal anarquista, del movimiento anarquista en México, y cómo es que esa resurgencia trata de ponerse en la IFA.
Bueno, pues el resurgimiento del anarquismo en México no es muy reciente, pero tampoco es como demasiado arraigado. De hecho, como el resurgimiento del anarquismo viene, por así decirlo, a finales de los 90 en México.
La resurgence de l'anarchisme au Mexique n'est pas tout à fait récente, mais enfin, elle n'est pas ancienne non plus. Elle date à peu près des années 90.
Sin embargo, sí hay un resurgimiento, hay un movimiento que está tratando de encontrar como un espacio en el movimiento social.
C'est un mouvement qui essaye de trouver sa place dans le mouvement social, dans l'espace social.
Y bueno, pues es muy interesante cómo surge el anarquismo, cómo resurge el anarquismo en México después de que los antiguos militantes de la Federación Anarquista de México y exiliados españoles mueren y empiezan a desaparecer de la escena política.
Et c'est intéressant de voir cette résurgence parce que c'est à un moment où les anciens militants de la Fédération anarchiste mexicaine et les Espagnols qui étaient en exil commencent à disparaître. Donc il était temps que ce mouvement renaisse avec la jeunesse.
Una de las características, digamos, de este resurgimiento del anarquismo es que esta generación de anarquistas de hoy comienza sin una base en la cual comenzar a trabajar.
Alors, l'intérêt de cette résurgence, c'est que on le retrouve dans la génération.
Que.
Después, ¿qué has dicho?
Empezamos
sin bases
a trabajar.
En bases que ideológicas no teníamos.
Ah oui, cette résurgence est arrivée alors que cette génération n'avait pas de base idéologique.
Porque la generación pasada de anarquistas no se encargaron de generar unas bases para cuando ellos estuvieran ausentes, cuando ellos o murieran o desaparecieran de la escena.
Et les bases qui avaient été léguées étaient faites pour quand ils reprendraient le flambeau, quand les anciens auraient disparu.
Y bueno, pues desgraciadamente llegamos nosotros con mucho trabajo, con muchas dificultades para una formación ideológica.
Donc quand ils sont arrivés dans le militantisme, il y avait beaucoup de travail à faire pour refaire les bases idéologiques.
De hecho, las ediciones de libros anarquistas en México son muy, muy escasas y bastante caras.
Les éditions d'ouvrages anarchistes au Mexique sont très, très rares et très chères.
Y bueno, pues medianamente hemos podido como generar una serie de publicaciones, periódicos, libros que se han ido formando los últimos años.
Ces dernières années, ils ont quand même pu publier différents livres, journaux, revues, malgré tout.
Pero bueno, pues es medianamente así, ¿no? Entonces, una preocupación ahora de la Federación Anarquista de México es trabajar en crear las bases para que las generaciones que vengan no encuentren un espacio en blanco, sino ya una base sobre la cual trabajar.
Donc leur travail maintenant, c'est de conforter toutes ces bases pour que la génération suivante ne trouve pas un espace complètement vide.
Je voulais poser une question qui n'est pas spécifique au Mexique, mais qui me paraît très importante. C'est que dans beaucoup de ces pays, il y a des traditions de peuples originaires, autochtones, enfin, quel que soit le terme. Et dans une partie de leur fonctionnement, on retrouve un fonctionnement de type libertaire, c'est-à-dire un fonctionnement horizontal, décision au consensus, etc. Et dans le cas particulier du Mexique, ça a été illustré il y a 4 ans par un compagnon, Mathias, je crois, qui est à la Fédération anarchiste mexicaine, qui était passé pour aller au congrès précédent de l'IFA qui avait lieu à Carrare, et c'est un compagnon d'origine donc autochtone. Et en plus, il y a quand même un passé où il y a peut-être des...
Je ne sais pas s'ils comprennent.
Ah oui, excuse-moi.
non, mais c'est entendu. Ils ne comprennent pas.
Ils ont dû comprendre Mathias. Quand
Serge, j'avais juste oublié qu'il fallait que Ramon traduise.
Il faut que je traduise dans l'autre sens.
Non, mais moi, le Mexique, ça me passionne. Alors, une fois que je suis parti.
Bon, tu peux repartir du début, puis je vais...
Oui, donc je disais, en gros, synthétiquement, c'est ça l'essentiel, que la tradition est encore présente dans beaucoup de peuples, originels, ouais. De peuples autochtones, ouais. Notamment au Mexique, et cette tradition de fonctionnement libertaire permet peut-être plus facilement de développer les idées. Voilà.
Lo que dice el compañero es que en la tradición de la militancia en México han vuelto tradiciones de los pueblos indígenas, y que corresponden a la a la organización anarquista, organización horizontal, organización buscando un consenso, y que eso corresponde. Y habíamos visto pasar aquí en Francia un compañero que se llama Matías, uh-huh, que nos había explicado todo ese funcionamiento. Vas-y.
Oui, donc ma question, est-ce que ça facilite ou peut-être, dans, pas uniquement au Mexique, mais dans ces pays, la compréhension des propositions anarchistes, mmh, justement. On l'a vu à Oaxaca, on le voit chez des fonctionnements zapatistes, voilà.
Est-ce que esta forma de organización de los pueblos indígenas que parecida, est-ce que facilita el conocimiento de las ideas anarquistas, sí, puesto que son bastante ciertas, son bastante parecidas.
Sí, así es. De hecho, hay que recordar que el 80% de la población en México puede ser indígena.
Ha dicho que c'est le cas puisque pratiquement 80% de la population mexicaine est d'origine indigène.
Pero también hay que recordar que en las ciudades desde hace mucho tiempo se ha perdido esa horizontalidad en
Mais par contre en la comunidad. dans les villes, dans les grandes villes, cette structure, cette forme d'organisation horizontale s'était un peu perdue.
Solo que desde mi punto de vista creo que ahora se ha recuperado.
Et maintenant à son point de vue, à son avis, on c'est en train de se récupérer.
Por las circunstancias sociales y políticas en cuanto a criminalidad y a incredibilidad en el gobierno, resurge como ese anarquista interno que todos traemos.
Voilà. Les idées anarchistes resurgissent surtout dans cette situation de crise actuelle au Mexique où il y a les assassinats, les guerres de narcotrafiquants et là une crise sociale assez assez importante.
Oui, je voulais, pour terminer sur cet aspect, je pense qu'on fera une petite pause musicale rapidement après. Par exemple, dans la lutte, enfin dans ce qu'on a appelé, nous ici, en tout cas, la commune de Oaxaca.
Et la commune de Oaxaca.
Il y a eu une participation, effectivement, des communautés indigènes, mais aussi dans la ville, notamment dans les banlieues où vivaient justement des jeunes qui avaient quitté ces communautés.
Hubo unas acciones de los indígenas, los pueblos indígenas, pero también en las ciudades, por lo visto, ha habido una ayuda de las juventudes que vivían en las ciudades, sobre todo en Oaxaca.
Une dernière question sur ce sujet. Est-ce que, puisque issu de cette lutte d'Oaxaca, s'est mis en place ce qu'on peut appeler un réseau vocal, que tu connais bien, hein.
Puesto que se ha puesto. Después de lo que pasó en Oaxaca, esa estructura que se llama Vocal, que es una radio.
C'est un réseau, en fait, d'individus qui se coordonnent. Et donc, ce réseau où il y a beaucoup de libertaires et de jeunes indigènes, est-ce qu'ils ont des contacts avec le Vocal,
voilà. Est-ce que vosotros tenéis contactos con los jóvenes que pertenecen a Vocal?
Bueno, principalmente, el enlace con los compañeros de Oaxaca viene del colectivo autónomo magonista, que es donde está el compañero Matías.
Voilà. Alors, c'est ça. Donc, les camarades de Vocal sont comme Matías viennent du collectif libertaire Magon.
Cama, c'est ça.
Sí.
Cama.
Sí. Yes.
Y bueno, pues están haciendo un trabajo muy interesante allá en las comunas indígenas.
Font un travail assez intéressant dans les communes indigènes.
D'ailleurs, il y a quelqu'un de Vocal qui est invité, qui sera d'ailleurs présent, je crois, demain ou après-demain, sí, me semble-t-il. En tout cas, c'est sur le programme.
Normalmente, mañana o pasado, tiene que haber un representante de Vocal. Sí, sí. Ouais.
Et ben, on va passer peut-être un peu de musique, et puis avant de continuer.
Un poco de música.
Eh bien, je vais en profiter pour, puisque nous parlions de la commune d'Oaxaca, je vais vous faire écouter Son de la Barricada, qui justement est consacré à la commune d'Oaxaca. C'est la compagnie Jolie Môme.
Mmh. juin 2006, au sud-ouest du Mexique, dans la ville de Oaxaca. Cela fait 6 mois que la place centrale de la ville est occupée par les enseignants en grève, rejoints par les étudiants en grève, rejoints par plein de gens en grève. Tout autour de la place des barricades, dans la ville, on enfonce jusqu'à 1000. Et de l'autre côté des barricades, évidemment, la police. Et voilà que un matin,
el día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno reparaba la cerrada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Qué de dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Qué de dónde son?
Eh oui, un matin, la police a chargé. Mais sur la place, tout le monde se réveille. Sur les barricades, c'est le branle-bas de combat. Dans la ville, les radios occupées relaient le message d'alerte. Les femmes prennent la télévision et le relaient à leur tour. Et voilà plein de gens qui se rendent aux barricades. Les uns arrivent avec une pierre, d'autres viennent avec un bâton, d'autres encore avec leurs cris. Et on jette tout ça sur la police.
Sonó la reja en la calle cuando empezó el regimiento. Y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba desmentiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con gases que los maestros se quitaron con vinagre. ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿Qué son de la barricada?
Sur la barricade, on a eu le droit à tout. Les attaques de la police, les contre-attaques de la police, les hélicos, les lacrymos. Mais les barricades ont tenu bon tout au long de ces 6 mois. Et comment croyez-vous qu'elles aient pu durer aussi longtemps? Ah, pour ça, pas de secret. Comme le dit la chanson, on vous attend aux barricades.
Salieron en estampida, chocó en tierra al traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son?
Donc toujours à Saint-Imier, rencontre internationale de l'anarchisme, et rencontre maintenant avec des compagnons et des compagnes mexicains et de la Fédération anarchiste mexicaine. Donc peut-être on va demander à Marco, là, qui n'a pas encore pris la parole. Je pense qu'il est important pour les auditeurs de se rendre compte que certes, il y a beaucoup de résistance, qu'elle soit indigène, qu'elle soit chez les anarchistes ou ailleurs, mais il y a une violence extrêmement forte qui s'exerce contre les mouvements sociaux, contre les organisations. Et nous allons passer la parole donc maintenant.
Primero vamos a pasar la palabra a Marco. Después también hablaremos de la violencia que hay hoy en día en la sociedad mexicana. Y me parece que Marco tenía algo que añadir.
Sí, buenas noches. Mire, comentando un poco o respondiendo un poquillo a la pregunta que
por revenir sobre la cuestión precedente,
él decía que qué influencia tenía la anarquía en las comunidades.
Il demandait quelle relation y avait-il entre l'anarchie et les communautés indigènes.
Yo les digo que bueno, las comunidades ya desde hace mucho tiempo siempre han vivido con una vida libertaria.
Depuis très longtemps, pour ne pas dire toujours, les communautés indigènes ont vécu suivant un mode libertaire, anarchiste.
Donc, je crois que nous, comme anarchistes, ce que nous devons observer pour voir comment ils font leur vie quotidienne.
Et nous, en tant qu'anarchistes, ce que nous devons faire, c'est observer leur vie quotidienne et comment ils fonctionnent.
Y para compartir la ideología de lo que es la anarquía con los compañeros de las comunas, creo que nos tendrían que ellos más enseñar a nosotros.
Y pour dire les choses comme elles sont, c'est plutôt nous qui devrions recevoir des leçons de leur part.
Oui, d'ailleurs, pour information, suite au passage de Mathias il y a 4 ans, nous avons monté une émission sur Radio Libertaire qui s'appelle Terre et Liberté et qui était consacrée justement aux luttes des peuples autochtones en Amérique latine et aussi dans d'autres régions du monde.
Sí, hace 4 años con Mathias hicieron un reportaje, emisiones a Radio Libertaria sobre las luchas de los pueblos indígenas en esa parte de América.
Que se llama Tierra y Libertad.
Y la misión se llamaba Tierra y Libertad.
Tierra y Libertad, c'est aussi un mot d'ordre de Flores Magón, qui a encore quand même des traces un petit peu, je pense, au Mexique.
Dice que Tierra y Libertad hace recordar a Flores Magón, qui nos parece que aún se ven huellas del pasaje de Flores Magón en México.
Oui, donc sur un sujet peut-être moins réjouissant, donc sur la violence,
ahora,
la répression.
Sobre otro tema, mais más triste, sobre la violencia que pasa hoy en día en México, porque aquí siempre oímos que hay matanzas de la guerra de narcotraficantes y no sabemos si es verdaderamente esa guerra o si el Estado también se aprovecha para eliminar a militantes sindicales o políticos. Ya participé, lo ajusté.
Bueno, mira, la llamada guerra contra el narco es en realidad una guerra entre el mismo las mismas fuerzas del gobierno.
Alors pour eux, la guerre des narcotrafiquants, en fait, ça aurait une guerre déjà entre gens qui sont des gens qui sont au pouvoir.
Tenemos que tener en cuenta que México vivió 70 años de dictadura bajo el Partido Revolucionario Institucional.
Il faut tenir compte du fait que le Mexique a connu la dictature du Parti Révolutionnaire Institutionnel, du Parti Révolutionnaire Institutionnel, hein, qui, c'est assez amusant, hein, je fais un commentaire de ma part, qui est révolutionnaire et institutionnel. Il y a un truc qui cloche.
Il n'empêche qu'il quadrille complètement le pays.
Et qui a quadrillé complètement le pays, effectivement.
Bueno, y durante ese tiempo, este partido tuvo el control del narcotráfico en todo el territorio mexicano.
Y pendant 70 ans, ce parti a eu le contrôle total du trafic des narcotrafiquants sur tout le territoire mexicain.
Cuando en el año 2000 el PRI sale del gobierno y entra el Partido Acción Nacional, que es el partido de derechas en México.
Lorsqu'en 2000, c'est plus le PRI qui est au pouvoir, c'est le Parti d'Action Nationale qui arrive au pouvoir.
Lo que pasa es que el Partido de Acción Nacional trata de tomar el control del mercado de narcotráfico.
Ce nouveau parti victorieux de ces élections, le Parti d'Action Nationale, va tenter de prendre le contrôle du trafic de stupéfiants.
Los 12 años últimos que ha habido en México y que están llenos de una violencia terrible y de, bueno, todo lo que se sabe a nivel internacional, es parte de eso, de la guerra de un partido que trata de tomar el mercado del narcotráfico.
Ces 12 dernières années, toutes les tueries qu'il y a eu, ce qu'on appelle nous la guerre des narcotrafiquants, c'est une guerre entre deux partis qui essayent de prendre le contrôle de tout ce trafic.
En las elecciones pasadas de julio, el narcotráfico pues apostó fuertemente por el regreso del PRI, porque esto daría varios caminos en México.
Pour les dernières élections qui ont eu lieu là ce dernier 1er juillet, les narcotrafiquants ont misé sur le retour du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel au pouvoir, qui leur ouvrait plus de débouchés.
Por una parte está el hecho de que una de las promesas del PRI para tomar el poder es que van a acabar con la delincuencia y con la situación de violencia que hay en México.
Alors, l'une des promesses du PRI, du Parti Révolutionnaire Institutionnel, pendant la campagne électorale, c'était qu'ils allaient en finir avec la délinquance et les tueries.
Et bueno, la vía que toman para frenar la violencia que hay en México es que ellos van a retomar el mercado del narcotráfico.
Et la voie sur laquelle ils se sont engagés pour arriver à faire cesser cette violence, c'est de contrôler à nouveau complètement le trafic de stupéfiants.
Las elecciones estuvieron marcadas por un apoyo descarado, sin ningún tipo de apariencia por parte del narcotráfico al candidato del PRI.
Les chefs de bande, les narcotrafiquants ont donné ont appuyé, mais alors sans se cacher, le candidat du Parti Révolutionnaire Institutionnel. Ils ne sont absolument pas cachés, ils ont carrément appelé à voter pour lui.
Igualmente las televisoras en México y los medios de comunicación, tanto la prensa, la radio y la televisión, todos apoyaron abiertamente al regreso del PRI.
Et dans le même temps, tous les médias, journaux, télévision, radio, ont ouvertement appelé à voter pour le Parti Révolutionnaire Institutionnel.
Igualmente, los grandes capitalistas apoyaron abiertamente este candidato.
Ainsi que tous les grands capitalistes qui voulaient le retour du PRI.
Porque ese candidato representa el regreso de ese pasado oscuro que hubo en México de 70 años de gobierno priista.
Parce que l'élection de ce candidat aurait fait revenir la situation qu'il y a eu pendant 70 ans et pendant laquelle ils sont évidemment bien gavés tous.
El candidato del PRI que ha ganado la presidencia de México es el mismo que ordenó los actos tristes y cruentos de San Salvador Atenco. Bueno. Entonces podemos darnos una idea de qué tipo de gobierno va a haber en los próximos años en México.
Le candidat qui a gagné les élections, le nouveau président de la République, est le même personnage, le même politicien qui est à l'origine des événements, des attentats de Atenco.
Juste une parenthèse peut-être oui. Pour les auditeurs. Bon, c'est pas oui. La peine de traduire, ils connaissent mieux que moi la situation à Atenco, donc juste en deux minutes. Atenco, ça représente un peu comme Notre-Dame-des-Landes en France, puisqu'il s'agissait d'un aéroport, enfin de l'agrandissement d'un aéroport à côté de Mexico, dans une zone d'Atenco, qui est une zone de paysans souvent d'origine indigène. Et il y a eu une très très grande résistance qui a gagné à l'époque, dans les années 2000, je crois. Sauf qu'il y a eu une répression en 2006. Absolument, extrêmement violente de la part de la police ou des forces paramilitaires, et avec des condamnations des fois à plus de 100 ans. Je crois que quand même il y a les leaders du Front Paysan qui ont été libérés depuis. Mais enfin, c'est une situation très violente. Donc ça conduit peut-être ma question. Effectivement, vu d'ici, la violence est présentée comme liée à la guerre contre les narcotrafiquants. Donc il a bien montré que derrière, il y avait des partages du pouvoir, ou en tout cas une lutte pour le pouvoir. Mais je constate que dans cette guerre, il y a beaucoup de gens qui luttent, que ce soit des indigènes, que ce soit des syndicalistes, qui sont tués. Donc ce n'est pas que des narcotrafiquants qui s'entretuent.
Ha oído bien lo que has dicho, pero constata que en esa guerra, lo que llaman la guerra de los narcos, hay muchos muertos, pero a menudo son sindicalistas o militantes activos que pero no tienen nada que ver con el narcotraficante. Es que el gobierno o las autoridades se aprovechan para eliminar de paso también a lo que les fastidia.
Sí, por supuesto que lo utilizan como un pretexto más para hacer presión sobre los asuntos sociales.
C'est un prétexte pour faire pression, pour faire passer les conflits sociaux, et donc bon, effectivement, ils se servent de cette guerre, donc pour au passage dessouder quelques gens qui les gênent.
Y de hecho sirve también como pretexto para hacer un reforzamiento de las fuerzas policiales y hacer una militarización en las calles, en los barrios populares, aún de todo el país.
C'est un prétexte aussi à renforcer les forces de police et renforcer la répression dans tous les quartiers, dans toutes les villes. D'ailleurs, enfin, bon, personnellement, quand j'étais allé au Mexique, à Mexico par exemple, c'était affolant. J'ai jamais vu autant de policiers en armes avec gilets pare-balles. Et c'était vraiment, et tout de même, je sais pas, tous les 30 mètres, on voyait 2-3 policiers à la fois complètement suréquipés. C'est sûr que cette guerre des narcotrafiquants sert à faire passer toutes les mesures de répression.
Sí, de telle manière que si matan a un dirigeante syndical ou a un dirigeante indígena, podría decirse o le asaltaron en la calle o lo mató el narco. Il y a une confusion en ce sens. Il y a une porte.
Il y a une confusion qui est entretenue pour dire de temps en temps, quand un dirigeant syndical ou un dirigeant indigène est tué, on prétend que c'est lui qui a été victime d'un narcotrafiquant, même si c'est pas le cas.
Tengamos en cuenta también que cada institución del Estado tiene en teoría una función. El ejército, supuestamente su función es proteger al país en caso de una invasión extranjera o en caso de una rebelión grande en contra del gobierno.
Chaque institución du pays a une fonction bien précise. L'armée, les militaires sont là en principe pour protéger le pays d'une invasion d'un autre pays.
Y en México desde hace ya ya hacen varios años que el ejército está en las calles y no hay ni una invasión extranjera ni una rebelión.
Et ça fait très nombreuses années que la que l'armée est présente dans les rues des villes alors qu'il y a aucune menace militaire d'un autre pays ni aucune rébellion en vue. Mais ils sont présents dans toutes les rues des villes.
Esto creo yo que se debe también porque en México de 106 millones de habitantes que hay, 77 son pobres.
Cela est dû aussi au fait que sur une population de 106 millions d'habitants, 77 millions sont en dessous du seuil de pauvreté.
Y viendo también las reformas laborales y económicas que ha implantado Felipe Calderón, todo apunta a que la condición en México, aunado a los 37 millones de pobres que hay, va a empeorar en los próximos años.
Y todas las medidas económicas y sociales que habían sido tomadas por el presidente Felipe Calderón no han hecho que empeorar la situación de los 77 millones de mexicanos que estaban ya en dessous del seuil de la pauvreté.
Hace un año que cada mes suben la gasolina en México.
Ça fait depuis un an, chaque mois, le prix de l'essence grimpe à Mexico.
Y bueno, vamos, todas las condiciones sociales que hay, los aumentos que está habiendo en las canastas básicas, las desigualdades que hay, el clima de violencia generalizado que hay, el hecho de sacar el ejército a las calles es como prevenir lo que ellos saben que viene.
Toutes les mesures antisociales qui sont décidées, toutes les augmentations du coût de la vie, le fait, tout ça est, explique le fait que l'armée est présente dans la rue. Ils sont en fait, tout le monde comprend bien que l'armée qui est dans la rue est là pour prévenir toute tentative de rébellion contre toutes les hausses du coût de la vie.
El alzamiento en Chiapas, el movimiento de Atenco, lo sucedido en Oaxaca, la situación que hay ahora mismo en Cherán, todo esto son como indicios de que en México se están moviendo las aguas que durante mucho tiempo estuvieron en calma y que hay un movimiento social que está comenzando a despertar.
Toutes les rébellions des Chiapas, de Oaxaca, Tenco, tout ça est un signe que, il emploie l'expression, des eaux qui dormaient tranquillement jusqu'à maintenant sont en train de se soulever et ça présage des mouvements de révolte futurs.
Entonces, efectivamente, como decía la compañera, la ilusión de la guerra contra el narcotráfico sirve también para prevenir un movimiento social que ya da los primeros indicios de rebelión en México.
Y donc, comme a dit la camarade tout à l'heure, l'armée la présence de l'armée dans les rues est bien là pour prévenir une rébellion dont on voit les indices actuellement.
Je pense qu'on va passer une petite musique avant une dernière séquence rapide.
Vamos a pasar música antes de...
On a trouvé Victor sur le bord du chemin, plus de vie dans le corps et massacré les mains. Veilleur, passeur d'espoir, l'écrivait des chansons, touché à la guitare, Rara était son nom. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. Blindé, passant qui court dans la ville ébahie. Les brutes militaires des casernes jaillies. Les avions, la poussière et les bombes et les cris. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. C'est au stade d'abord qu'ils ont été parqués, les promis à la mort, les déjà sacrifiés. Le chanteur, c'est bien toi, demande un officier. Victor le fixe droit dans les yeux sans ciller. C'était le 11e jour d'un septembre au Chili. 30 ans, le temps qui court n'apporte pas l'oubli. Venu de Washington à peine déguisé, l'ordre implacable tonne, tuer la liberté. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Qui chante le bonheur et la fraternité? Celui-là fait-il peur aux barbares casqués? À coups de crosse, on a fracassé ses poignets. Joue maintenant, rara, avant de l'achever. C'était un 11e jour de septembre à Santiago. On l'a dans les faubourgs jeté dans un ruisseau. Et personne depuis n'a demandé pardon. Pour les années de nuit, pour tous les compagnons. Non, personne là-bas n'a montré de remords. L'honneur on connaît pas dans les états-majors. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front. Le peuple uni jamais ne sera vaincu, non. Le peuple uni jamais n'inclinera le front.
Donc, toujours d'abord à Saint-Imier, rencontre internationale à l'anarchisme, et ce soir, une rencontre avec des compagnons de la Fédération anarchiste mexicaine. Monica, Marco, Eric, et puis aussi avec Ramon, qui a eu la gentillesse de venir traduire, qui est très sollicité d'ailleurs pour les traductions. Oui, j'ai oublié de dire que vous avez entendu encore le même chanteur suisse, mais l'excellent chanteur suisse, Michel Buller, que Monique avait laissé à la disposition de Patrick qui a pris le relais pour la technique. Voilà, il nous reste quelques instants, mais j'aimerais bien poser une question dans le climat de violence que vous avez décrit brièvement, mais on pourrait parler de plein de choses malheureusement. Quand on essaie de créer une fédération anarchiste, qu'on essaie par exemple de participer à un cortège anarchiste au 1er mai de l'année dernière, puisque là, on avait une compagne et un compagnon qui en ont parlé. Est-ce que, je ne dis pas qu'il y a une violence encore plus forte comme les anarchistes, mais comment vous arrivez à militer est-ce qu'il y a vraiment une répression qui est dirigée plus particulièrement contre les anarchistes, ou est-ce que vous êtes dans la répression globale? Bon, tu peux synthétiser. Oui.
En ce climat de violencia que conoce México, ¿cómo podéis vosotros, anarquistas, poder actuar, manifestar, sin que hagan violencia peor aún contra vosotros, puesto que ya en tiempo normal hay violencia, entonces contra gente que quiere hacer desarrollar una federación anarquista mexicana? ¿Qué pasa? ¿Hacen más violencia aún contra vosotros?
Bueno, la federación no puede, los últimos años no ha podido salir a las calles en tranquilidad.
Ces dernières années, la Fédération anarchiste mexicaine n'a pas pu sortir en toute sérénité pour manifester dans les rues.
Y bueno, quizá habría que agregar que no solo la federación, los demás grupos anarquistas que hay que no están en la federación tienen la misma situación.
Il faut dire aussi que tous les autres groupes anarchistes qui ne sont pas membres de la fédération anarchiste mexicaine sont dans la même situation, ils peuvent pas sortir tranquillement dans la rue pour manifester.
Esto es porque evidentemente como movimiento social, pues el gobierno le preocupa hasta cierto punto que podamos crecer, que podamos influir en el ámbito social.
Et ça, c'est le résultat du fait que le gouvernement est inquiet, ne veut pas laisser se développer un mouvement qui le conteste de cette manière-là.
Y bueno, esto se ve cuando un contingente anarquista, una agrupación anarquista sale en una manifestación. Por lo regular siempre hay una vigilancia constante, un acoso de policías vestidos de civil vigilando a los compañeros.
Alors, ils en ont à chaque fois la démonstration. Dès qu'ils essayent de participer à une manifestation, ils notent tout de suite une recrudescence du nombre de policiers qui encadrent la manif et du nombre de policiers en civil qui sont dans la manif.
El primero de mayo pasado se pudo ver como más ampliamente esto cuando el contingente anarquista que iba a participar en la manifestación, que eran 150, 200 personas, fue rodeado por un contingente de casi 1000 policías.
Y là, ils ont pu se rendre compte au dernier 1er mai auquel ils ont participé dans le cortège, ils étaient 150 à 200 encadrés par 1000 policiers.
Todo, o sea, el operativo que se hizo contra el movimiento anarquista era precisamente para que no pudiera participar en la marcha del 1 de mayo.
Y todo eso ha sido, evidentemente, hecho para que el cortejo anarquista no pueda participar en el desfile del 1 de mayo.
Estuvimos encapsulados, no sé si se conozca aquí el término, bueno, rodeados por la policía sin podernos mover.
Les emplois en expression, ils étaient encapsulés, c'est-à-dire complètement entourés en cordón par les policiers qui marchaient autour d'eux.
Y bueno, después de 3 horas bajo el sol y por la presión de gente solidaria, de gente que iba pasando ahí, que empezó a decir que por qué nos impedían el tránsito, fue que logramos salir, pero es un ejemplo de que la represión hacia el movimiento anarquista existe.
Ils ont été bloqués donc pendant 3 heures en plein soleil et il a fallu que ça soit des gens de la population qui protestent contre les flics en leur demandant pourquoi ils les empêchaient de rejoindre le cortège, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont pu le faire, ce qui montre aussi quand même qu'ils ont un certain soutien de la population.
Sí, durante el encapsulamiento, la policía decía que tenían informes de que llevábamos bombas y cócteles Molotov y armas en las mochilas.
Le prétexte de la police pour les avoir bloqués comme ça, c'était qu'ils disaient être au courant que certains militants avaient dans leur sac à dos des bombes et du matériel de dynamite.
Entonces, si bien la violencia no es a nivel como se ve entre grupos de narcotraficantes, sí hay una vigilancia, un acoso constante, y cuando salimos a las calles los anarquistas, sí hay mucha más vigilancia y represión que hacia otros movimientos sociales.
Par rapport justement au problème de la guerre des narcotrafiquants, évidemment, c'est un prétexte pour surveiller encore plus les anarchistes quand ils sortent dans la rue. Mais c'est toujours la même chose. Les narcotrafiquants servent de prétexte pour surveiller et encadrer tout le monde, tout mouvement d'opposition.
Peut-être pour terminer, passer la parole à Marco, à Monica, une dernière question. Dans un contexte comme ça, quelle aide on peut vous apporter? Parce qu'on souhaite fortement aider cette résurgence de l'anarchisme en Amérique latine en général et particulièrement au Mexique.
En este contexto, nosotros estamos por el desarrollo de todo el movimiento anarquista en toda América Latina, y en el contexto de ahora, de violencia y todo, ¿qué ayuda podéis esperar de nosotros, de los movimientos anarquistas europeos, para desarrollarlos más?
Bueno, creo que la ayuda que podemos esperar de ustedes es pues toda la difusión de la problemática que hay en México.
L'aide qu'ils attendent, c'est la propagation des informations de tout ce qui se passe au Mexique.
Y tender lazos para poder comunicarnos, ya sea vía internet, por folletos, por libros.
C'est entretenir des liens, que ce soit par internet ou autrement, pour nous répercuter ces informations.
Et de toute façon, sur Radio Libertaire, on s'en fera l'écho.
Et surtout, en Radio Libertario, ya haremos pasar la información.
Gracias.
Oui, je voulais juste faire une référence à un livre que Ramon connaît bien, et je voudrais leur demander s'ils le connaissent, puisqu'il est paru au Mexique il y a 2-3 ans, 3-4 ans peut-être.
Qui est faire une référence à un livre qui a... que se ha publicado hace 3 o 4 años en México. Bueno. Es el libro que hemos hablado antes, El espejo de México.
Sí, el espejo de Claudio México, Albertani, de Claudio un amigo. Albertani.
No sé si habéis oído hablar de ese libro ahí.
Yo lo he visto, lo he ojeado, pero sí. no he podido leer porque ahí tengo como muchos libros para...
Il le possède, il l'a acheté, mais il a une telle pile de livres en retard à lire qu'il celui-là il l'a pas encore lu.
Pero y a Claudio Albertani, por supuesto que se le conoce.
Il connaît évidemment Claudio Albertani.
Monica.
Sí, y regresando un poco a la pregunta que había hecho anteriormente, quería comentar que precisamente ahora que estamos acá en el Congreso nos hemos encontrado con otras federaciones latinoamericanas, que curiosamente es como el primer año nos dicen que asisten tantos grupos latinos. Entonces, hoy justamente hicimos como una pequeña asamblea informal entre grupos.
Dit que justement à l'occasion de ce congrès de Saint-Imier, ils ont rencontré pas mal d'autres fédérations ou groupes latino-américains et que donc ils ont fait une espèce de petite assemblée entre eux puisqu'ils se connaissaient pas.
Sí, y platicamos sobre precisamente empezar a formar lazos en Latinoamérica porque en realidad no están muy firmes. Y de esa manera también apoyarnos con las problemáticas de cada país que son muy similares en América Latina.
Voilà, et ils échangent leur mode de fonctionnement, leurs pratiques, et c'est une façon comme ça de s'entraider dans les en se faisant connaître mutuellement leur mode de fonctionnement dans leurs différents pays.
Y me parece importante porque es son uruguayos, chilenos, brasileños.
Ça lui paraît important parce qu'ils ont rencontré comme ça des brésiliens, des uruguayens, des chiliens.
¿Quién más había? Argentinos, venezolanos,
des vénézuéliens.
Y México. Y los chilenos, o sea, 7.
Ils ont rencontré 7 groupes ou fédérations différentes d'Amérique latine qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
Oui, ça c'est très important. Enfin, l'internationalisme, c'est effectivement ça. C'est des rencontres, des soutiens, des échanges, des solidarités. Et bon, je pense que, en tout cas, l'IFA fera le maximum pour aider justement à peut-être, on peut imaginer des rencontres au niveau de l'Amérique latine, mais ça c'est à vous de voir quand vous aurez les possibilités de l'organiser.
El internacionalismo es algo importante y en el futuro ya veréis si vosotros entre países de América Latina podréis hacer lazos para escambiar las experiencias y las prácticas que tenéis todos.
Sí, eso esperamos.
Patrick.
Oui, bah écoutez, pour Radio Libertaire à Saint-Imier, c'est fini pour ce soir. Donc on va faire à vous Paris, à vous la rue de la Roquette, à vous Anne. Et puis on va passer un Michel Buller encore pour faire plaisir à Monique, pour pas que je me fasse engueuler.
Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir. Et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Liz Nogood, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé, douce France. Ainsi le Matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France! Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé. Dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin. À peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France! Ainsi, dans le camp d'en face, les éléphants barissent et poussent des cris de baronnes effarouchées, alors qu'ils sont semblables et compères et complices, plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette, je veux dire qu'on y voit guerre d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France ! Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle, le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cowboy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le dieu bon compte un allié de plus, pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus, la pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore en couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grands bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France.